Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait encore jour, déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive fit de la boue. Il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il agir et accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pour ça qu'ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il peut voir à présent, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclaraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous aussi vous vouliez devenir disciple ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'a entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à vous. Ce dimanche de la joie, ce dimanche du létharé, parce que nous avons déjà la perspective proche de la Pâque du Seigneur, la liturgie de l'Église nous invite à méditer sur ce très beau texte de la guérison de l'aveugle de naissance. Vous savez que quand Jésus fait un miracle, ce n'est pas pour montrer simplement que c'est un Superman, mais c'est pour dire quelque chose du salut. Et on pourrait ensemble méditer sur qu'est-ce que veut dire Jésus, et particulièrement l'Église qui nous propose ce texte au sein du carême, et le fait d'entendre ce texte au sein du carême, qu'est-ce que cela veut dire pour notre carême et notre préparation à Pâques. D'abord, Jésus qui sort du temple, c'est-à-dire qui sort du lieu de la relation avec Dieu, et qui voit. Vous avez remarqué, dans ce texte, le verbe « voir » est répété plusieurs fois. Il voit. Et il voit quoi sur son passage ? Un homme qui était aveugle de naissance. Il y avait certainement, à la sortie du temple, des tas de mendiants, des tas d'estropiés, des personnes qui demandaient la générosité des uns et des autres. Mais c'est celui-là que Jésus veut voir. Et c'est celui-là que Jésus veut toucher. Le fait d'être aveugle, c'est, dans l'Ancien Testament, premièrement, un lien avec Dieu qui est coupé. Il ne rentre pas dans le temple parce qu'il est impur. Et on voit bien les disciples qui sont avec Jésus disent « Mais est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché ?» C'est-à-dire, au fond, cet homme-là, s'il est aveugle, c'est à cause du péché. Il porte en lui le péché. Donc, il ne pouvait pas rentrer en communication avec Dieu. Il ne pouvait pas célébrer le culte. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Mais pire encore, cet homme qui est aveugle était mendiant. C'est-à-dire que sa vie dépendait des hommes. Non seulement il ne pouvait pas avoir de lien avec Dieu, mais il était tout entier livré aux hommes, tout entier dans la dépendance des hommes, parce qu'il recevait des hommes sa subsistance pour vivre. Et en guérissant cet aveugle, Jésus, parce que cet aveugle, c'est chacun d'entre nous, c'est l'humanité, hein, de même que ce chapitre, avant le chapitre de l'aveugle de guérison de l'aveugle de naissance, il y a la femme adultère, que de temps à autre on prend aussi pendant le carême, eh bien, c'est pour montrer, au-delà de cette femme concrète, que c'est l'humanité qui est sortie de l'Alliance. Là, ce qui est intéressant, c'est pour dire, c'est l'humanité qui est aveugle. Donc c'est en guérissant cet aveugle, à la fois il guérit le lien de l'homme avec Dieu, mais il guérit le lien social des hommes entre eux. C'est ça qui est formidable. C'est que le miracle vient guérir quelque chose dans l'homme qui a été cassé par le péché originel. Et est-ce que ce temps de carême n'est précisément pas ça? Un temps de guérison, où on vient se laisser toucher par le Seigneur pour qu'il puisse guérir en nous ce qui s'oppose à Dieu et guérir en nous, dans notre regard particulièrement, ce qui s'oppose à nos frères. Mais en plus, le fait d'être aveugle, ça veut dire autre chose, parce que la vision, le sens de la vision, qui sont ces cinq sens dont nous avons tellement besoin, le sens de la vision est le sens le plus spirituel. C'est celui qui rejoint le plus la foi, puisque on dit bien souvent un regard de foi. Il vit et il crut. Le regard dit quelque chose de très intime à la personne humaine, à tel point qu'il y a une béatitude qui a trait au regard, c'est celle des cœurs purs. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est-à-dire que celui qui voit Dieu, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui-même, il a fait tout un travail de conversion pour purifier son cœur. Le regard dit quelque chose de très intime à moi-même. Et on voit bien dans les regards que l'on peut croiser, un regard de tendresse, un regard de méfiance, un regard de haine, de mépris, tout ce qui habite notre cœur se traduit dans le regard. Et en guérissant cet aveugle, il vient guérir non seulement un de ses sens, mais il aurait pu guérir le sens du goût, le sens de l'odeur. Ah non, c'est le sens de la vue, parce qu'il vient guérir à l'intérieur de nous-mêmes ce qui est le plus intime à nous-mêmes, c'est-à-dire notre cœur. Donc c'est très beau de voir au fond que ce texte s'insère très naturellement dans la démarche du carême, précisément parce que dans la démarche du carême, le Seigneur veut venir guérir en nous notre regard. Et c'est intéressant de voir les différents regards. On pourrait prendre, si vous avez un temps chez vous, de relire le passage et de voir comment sont les regards qui se croisent face à ce miracle de la guérison de l'aveugle de naissance. Le regard de Jésus, on l'a vu, Jésus qui, comme dans la première lecture, ne regarde pas à l'apparence, comme Samuel ne regarde pas ses garçons qui sont beaux, grands et forts, mais va chercher le dernier David pour lui donner l'onction. Jésus qui regarde l'aveugle et le touche, le guérit, mais ensuite, il y a le regard face à l'œuvre de Dieu, il y a le regard des pharisiens. Il n'est pas facile de reconnaître l'œuvre de Dieu et d'y adhérer. Au lieu de se réjouir spontanément, quelqu'un qui était malade et qui a recouvré la santé, eh bien, on ne peut être que heureux. Mais non, il y a une défiance. Mais est-ce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu? Puis c'est le jour du sabbat. Puis cet homme, mais qui est cet homme? Vous voyez, cette souffrance au fond du cœur de Jésus, cette défiance jetée sur lui. De dire, mais cet homme-là, mais au lieu de rendre grâce pour le bien, on se méfie du bien. Et c'est déjà l'annonce de la passion, parce que Jésus a été condamné pour avoir fait du bien. C'est l'amour qui réveille la suspicion, voire la colère et la haine. C'est ce mystère très, très étonnant de voir comment l'œuvre de Dieu qui se manifeste là, eh bien, ce regard. Ensuite, le regard des parents. Les parents de cet aveugle de naissance qui disent « mais oui, c'est notre fils », mais qui ne se prononcent pas, qui restent comme en dehors parce qu'ils ont peur. Ils ne louent pas le Seigneur. Le regard des disciples, on l'a vu, qui voit un homme qui a péché ou dont les parents ont péché. Donc, dans ce temps de carême, c'est bien le temps de la conversion du regard. Et on sait bien que combien notre regard nous joue des tours. Nos regards sur les autres qui peut appeler un jugement intérieur, qui peut appeler non seulement un jugement, mais une condamnation de l'autre. Et combien notre regard doit être converti, parce que c'est notre cœur, le regard et le cœur c'est lié, c'est notre cœur qui doit être converti. Et on pourrait demander au Seigneur, peut-être de façon particulière dans cette Eucharistie, de changer de regard sur une personne particulière, parce qu'on n'a pas le bon regard. Les hommes voyaient dans cet aveugle un pécheur, d'autres simplement un fils mais sans plus, d'autres quelqu'un qui avait pactisé avec quelqu'un qui s'opposait à Moïse. Au fond, et le regard de l'aveugle sur Jésus, au contraire, une fois guéri, eh bien il reconnaît son Seigneur. Donc on voit tout ce cheminement et tous ces regards nous habitent. On a du mal à reconnaître l'œuvre de Dieu. On a de la défiance face à ceux qui sont trop différents. On a de la méfiance face à quelque chose qui nous échappe et qui ne rentre pas dans nos cadres. Nous, nous croyons à Moïse. Moïse, Dieu lui a parlé, c'est certain. Oui, d'accord, mais comme il est mort, on peut faire ce qu'on veut. On fait parler les morts comme ça. Et donc, du coup, on peut interpréter à sa manière, à sa sauce. Donc, on voit bien que, au fond, la question du regard est centrale, mais et c'est au cœur même de notre carême. Mais, en même temps, et dans cet évangile, il y a un autre point qui est très intéressant, c'est qu'il se situe déjà dans la dynamique de Pâques. Et la dynamique de Pâques, c'est une recréation. Et sans vouloir trop solliciter le texte, c'est-à-dire un peu tirer à la couverture à soi, mais on peut voir au fond des éléments de la Genèse, du livre de la Genèse à l'intérieur de ce texte. C'est de la boue que Jésus a fait, comme de la boue, de la glaise, est sorti le premier homme, la première femme, c'est-à-dire que du souffle de sa bouche, comme de la salive sortie de sa bouche, le Seigneur a refait ce qui a été blessé, l'a recréé totalement. Comme dans la Pâque, on est renouvelé intérieurement par l'œuvre de Dieu. De même aussi, c'est le jour du sabbat. Et vous savez que le fait de faire un miracle le jour du sabbat, ça veut dire que, alors que Dieu n'a plus parlé, n'a plus agi, l'homme ne doit plus agir, mais celui qui agit le jour du sabbat, c'est bien qu'il est Dieu. Il vient accomplir l'œuvre de Dieu les 6 autres jours où Dieu a travaillé, selon l'Écriture. Le 7e jour, il s'est reposé, mais Jésus agit le jour du sabbat à propos, pour dire c'est Dieu lui-même qui agit. Donc on voit bien cette recréation à travers ce miracle qui aussi veut demander cette recréation, mais qui touche quelque chose en nous du péché. C'est intéressant de voir que le péché originel était aussi une question de regard. Ève vit le fruit défendu et elle a vu qu'il était appétissant et bon. Donc c'est dans le regard que déjà est rentrée la tentation. Et Jésus vient guérir, renouveler cet aveugle pour que dans son regard rentre l'œuvre de Dieu. Alors que nos premiers parents, après le péché, ont vu qu'ils étaient nus et donc ont eu honte, ne se sont plus vus dans l'œuvre de Dieu, dans le regard de Dieu, eh bien Jésus vient guérir le regard de cet aveugle pour le restaurer et pour nous montrer qu'il est capable d'agir, de nous recréer intérieurement. Donc c'est très beau qu'on fait ces parallèles, de voir au fond comment, tant pour le sabbat, tant que pour la boue, mais aussi pour l'obéissance de l'aveugle. S'il n'avait pas le péché, c'est une désobéissance. Et il est guéri par l'obéissance. C'est assez intéressant de voir ça, de dire au fond, il a obéi, il s'est laissé mettre de la boue sur les yeux, il a écouté la parole de cette personne qu'il ne connaissait pas, qu'il ne voyait pas, qu'il n'avait jamais rencontré. « Va te laver à la piscine de Siloé, l'envoyé. » L'envoyé, c'est Jésus, bien sûr. Et ensuite, il a vu. Alors que le péché originel, c'est une désobéissance, là, on voit toute une recréation, tant de la création que de la restauration de l'homme, que au fond de ce sabbat auquel nous sommes appelés, qui est la contemplation, regarder Jésus, regarder Dieu face à face, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Donc on voit tout ce cheminement formidable, au fond, qui est très riche comme texte, précisément parce que ça a à voir avec la Pâque et ça a à voir avec quelque chose de très quotidien qui est le regard que nous portons les uns sur les autres ou le regard que l'on porte sur Dieu, le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Donc on va demander au Seigneur vraiment cette grâce particulière de venir restaurer, de lui présenter ce qui en nous est blessé. De présenter au Seigneur ce qui en nous fait obstacle à la relation à Dieu, obstacle à la relation aux hommes. De lui présenter ce qui nous fait trop dépendre des hommes et pas assez de lui, comme cet aveugle, parce qu'il était mendiant, dépendait totalement des hommes et n'avait plus accès au temple. On va demander au Seigneur qu'il nous donne cette grâce dans ce temps de carême de... Et on voit, plus on s'approche de Dieu, plus on voit qu'on a des choses à présenter, plus on voit qu'on a
à travailler à, dans notre cœur, parce que notre regard dit notre cœur, plus on a besoin d'être restauré, d'être recréé, et que ce n'est pas simplement nos efforts qui vont faire que l'on va s'en sortir, mais c'est la grâce de Dieu qu'il faut que quelqu'un vienne à notre rencontre et nous touche, sinon on ne s'en sortira pas tout seul. Et on le sait bien ça, on voit bien que de foi en foi, de confession en confession, c'est bien souvent les mêmes choses que l'on répète. Parce qu'on implore le salut. On implore la, à chaque fois que l'on se confesse, on vient fracasser contre le Christ notre combat, notre tentation, notre péché. Donc c'est comme ce miracle, comme les autres miracles, hein, au fond, dit quelque chose du salut. Et on va demander au Seigneur, vraiment lui qui est la lumière du monde, qu'il vienne nous éclairer intérieurement, hein, et qu'il vienne nous donner cette foi qui est dans le regard, pour à la fois le voir, le découvrir en nous-mêmes et nos frères, et à la fois nous purifier intérieurement pour avoir un lien avec lui plus profond. Amen.